Qu'est-ce que l'histoire ? C'est un voyage dans le passé en enfilant la peau des autres pour se mettre à leur place.
Umberto Eco par lui-même.
J'ai décidé pour survivre d'adopter une devise. Si le plombier se trompe à réparer quelque chose ou si l'employé à la banque fait quelque chose d'abominable, etc., je me dis, eh bien, s'il était intelligent comme moi, il serait professeur de sémiotique à Bologne.
De quoi était-il précisément professeur ? De sémiotique, le mot impressionnait un peu dans les années 1960-1970. C'est simplement la science des signes. Mais il enseignait tout aussi bien l'esthétique, l'histoire, la philosophie. L'Italie avait déjà connu un savant tous azimuts, Pic de la Mirandole. Eco en était un autre. La France, à y regarder de près, ne compte pas de personnage équivalent. Un intellectuel généraliste, mais disposant d'une vraie science, multiforme et capable de croiser les registres en connaissance de cause. Un intellectuel passionné par l'époque, mais qui cherche d'abord à expliquer, à englober, à apaiser plutôt qu'à trancher entre le bien et le mal. Avons-nous cela, ici, en rayon ? Et en plus d'être carré d'esprit, Eco était rond de chair. Très assuré certainement dans sa supériorité, il cherchait pourtant constamment à être sympathique. Il nous emmenait dans la culture comme dans un pays de cocagne. Il était un guide d'une humeur constamment joyeuse. Eco, c'était le vrai et le gai savoir.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Vous êtes le petit-fils d'un typographe du Piémont. Le métier d'un typographe, c'est de manipuler des signes, précisément typographiques, et matérialisés en l'occurrence dans le plomb. Est-ce que ce n'est pas là l'origine de votre vocation de sémiologue ?
Alors, voyons, ce grand-père typographe, moi, je l'ai connu très peu, parce qu'il est mort lorsque j'avais, je sais pas, 6 ans ou quelque chose. Mais évidemment, dans le discours de la famille, quelque chose est resté. Le fait même que les mémoires que j'ai de mon grand-père, la dernière fois que je l'ai visité dans sa maison, il y avait des livres qu'il était en train de relier. Et c'était des feuilletons du Dumas avec les gravures des Joanneaux de ces gens-là. Alors, ma mémoire est affolée par ces images. Que d'un jour, j'avais 10 ans, c'est pas, dans la cave de la maison, je trouvais une grande caisse plein de livres de mon grand-père. Et que mon père me parlait de sa passion pour les livres. Il m'avait appris à relier les livres. J'oubliais ça, mais une fois, je me souviens, je reliais de lui. Donc, évidemment, je me trouvais dans un milieu où la parole imprimée jouait un certain rôle.
Umberto Eco professait que l'effort qu'on fournit pour revenir sur son enfance peut être mélancolique, mais qu'il n'est pas malheureux, même si son enfance a été malheureuse. Et il rassurait aussitôt, la mienne ne l'a pas été. Petite ville du Piémont, petite bourgeoisie, grand souvenir. À l'entendre, même la guerre ne lui fut pas cruelle. J'étais curieux des bombes que les Alliés lâchaient sur nos villes, comme plus tard, des films qu'ils nous ont apportés et qui nous libéraient de l'esprit fasciste. Découvrir, dès les premières années, les signes qui ont fait ce que nous sommes et les recomposer pour inventer ce que nous allons être, c'est une définition de la sémiologie à l'usage de tous.
Pour la sémiologie, on est tous de Monsieur Jourdain, évidemment. Avant tout, on fait tout de la sémiose. La sémiose, disons, c'est le phénomène, tandis que la sémiotique ou la sémiologie, pour moi, c'est la même chose, sont la réflexion sur le phénomène. Alors, évidemment, tout le monde fait de la sémiose, tous les êtres humains, et probablement, on dit, même les animaux. Et vous savez qu'il y a aussi une phytosémiotique qui s'occupe des procès de communication entre les plantes. Moi, je ne suis pas tellement sûr, mais il y a des gens sérieux qui ont travaillé là-dessus. Donc, tout le monde fait de la sémiose. Alors, c'est évident que, comme tout le monde marche, comme tout le monde mange ou fait l'amour, et il arrive à tout le monde de faire des réflexions sur le fait qu'il mange, qu'il marche, qu'il font l'amour, tout le monde fait des réflexions sur le fait qu'il est en train de parler, de communiquer, de chercher des signes. Ça, c'est évidemment de la sémiologie. Pas technique, pas académique, mais c'est normal. D'ailleurs, mon opinion, plusieurs fois répétée, c'est que même en tant que discipline, la sémiotique est né il y a 2050 ans dans la Grèce. On avait, c'est pas par hasard que on a inventé là des termes comme semeion, sema, qui sont la racine même des mots que nous employons. L'acte officiel de naissance, de réflexion sémiotique, c'est le livre Z de la métaphysique d'Aristote, où lorsqu'il arrive au point où il doit définir l'être, puisqu'il a écrit ce livre pour dire que la philosophie première s'occupe de l'être, alors il faut bien donner une définition de l'être, et il dit l'être, c'est ça qu'on dit dans deux façons différentes. C'est une définition, une fondation sémiologique de l'être même.
D'abord, leçon d'Aristote, les choses existent, puis nous les comprenons de façon différente. Il s'agit ensuite de s'entendre sur ce que les mots désignent et sur la façon dont on les emploie. Ce fut la grande affaire de saint Thomas d'Aquin, l'incomparable théologien du XIIIe siècle, le docteur angélique à l'esthétique duquel Eco consacra sa thèse. Alors saint Thomas d'Aquin, c'était lui aussi un homme carré d'esprit et rond de chair. Ses élèves avaient d'ailleurs découpé un arrondi dans son bureau pour qu'il puisse loger son ventre. Il travaillait dans les grands collèges médiévaux du quartier latin qu'a fréquenté à son tour Umberto Eco.
Je venais ici en 1952. J'étais en train de préparer ma thèse doctorat sur l'esthétique médiévale. Et je vais trouver que le livre dont j'aurais besoin était ici et c'était plus confortable que la Bibliothèque nationale, plus tranquille. Alors je passais tous les jours. J'étais en train de travailler sur le Moyen-Âge et j'avais décidé que Paris était la seule ville dans laquelle je pouvais, si je voulais, me recouper en petit Moyen-Âge à moi. Donc j'en souviens que ce 52, je vécus un mois seulement dans le Moyen-Âge. C'est-à-dire je faisais certaines ruelles entre Saint-Sevrin, Saint-Julien, le Pauvre, etc. Comme Wisement, je n'allais pas sur la rive droite parce que c'était vulgaire. Et j'avais été capable de me dessiner un Paris qui excluait le 17e, le 18e, ou s'il était là, je ne regardais pas. Et alors, j'ai réussi à vivre d'une façon moyenâgeuse pour un mois, ce qui m'a aidé beaucoup à entrer dans l'atmosphère. Et j'en souviens, c'était hiver, c'était le mois de sombre, et donc mes souvenirs sont avec la lumière artificielle, pas avec les rayons de soleil.
Et vous avez une grande passion pour les livres quand même.
Oui.
Mais vous pensez, vous, que c'est
que
quand
les
même...
livres se parlent entre eux, oui. Parfois, nous croyons que les livres sont faits pour nous, sinon c'est une espèce de société secrète. Il y a des livres qu'on absorbe à travers les doigts ou les nez sans les avoir lus. À un certain point, 10 ans après, 20 ans après, on a finalement le temps de les ouvrir et on dit « mais vous le savez, je les connaissais ». Ah, ça c'est un mystère.
Cela fait déjà plusieurs jours que je m'attends à ta visite, Guillaume. Alors que veux-tu exactement ?
Je veux voir un livre grec qui, selon vous, n'a jamais été écrit. Un ouvrage entièrement consacré à la comédie que vous haïssez, autant que vous haïssez le rire. Je veux voir ce qui est probablement le seul et unique exemplaire du second tome de la Poétique d'Aristote.
Ah, Guillaume, quel fabuleux bibliothécaire tu aurais fait. Tiens. Profites-en, tu l'as bien mérité. Lis, feuillette ses secrets.
Nous traiterons maintenant de la comédie qui exalte notre art de jouir du ridicule, usant du vulgaire et en prenant plaisir à ses tares.
Continue, Guillaume, lis donc. Si la lumière est trop faible pour tes yeux, donne-le au petit, il pourra le lire facilement.
Je ne voudrais pas que mon fidèle élève tourne vos pages empoisonnées, pas sans passer un gant, comme j'en porte moi-même.
Vénérable frère, il y a beaucoup de livres qui traitent de la comédie. Pourquoi celui-ci vous inspire-t-il si grande peur ?
Parce qu'il est Aristote.
Mais qu'y a-t-il de si inquiétant ? Dans le rire.
Qu'adviendra-t-il si à cause de ce livre, l'homme cultivé déclarait tolérable ?
que l'on rit de tout. Pouvons-nous rire de Dieu? Le monde retomberait dans le chaos. Ainsi donc, je scelle ce qui ne devait pas être dit. Dans la tombe que je deviens.
On aura reconnu en même temps que La recherche du gai savoir par écho, l'adaptation cinématographique par Jean-Jacques Haneau du nom de La Rose, polar médiéval qui se situe dans une abbaye au début du XIVe siècle entre Provence et Ligurie. Écho a alors 50 ans et il est déjà parvenu aux plus hautes reconnaissances académiques. Ses essais sont traduits en une dizaine de langues et il s'essaye pour la première fois au roman. Et soudain, il va passer d'une haute réputation à une immense célébrité. C'est en plus de 40 langues désormais qu'il est lu. 30 millions d'exemplaires peut-être pour Le Nom de la Rose. Il s'était parfaitement documenté, mais il avait été mu par le plaisir de l'écriture. Et quand on lui dit que son roman s'emboîte à la perfection avec ses recherches, il est d'abord un peu surpris. Il continue donc dans les deux voies, la romanesque et la scientifique, mais sans les concevoir comme des parallèles, on lui dit que ce sont des voies qui se croisent. Exemple, dans ces 7 romans, les personnages cherchent souvent une vérité dans un repli caché de l'histoire pour découvrir à la fin des fins que c'est un secret vide. Eh bien, les travaux scientifiques d'Écho, pareillement, essayent d'entrer dans la tête des occultistes et autres complotistes. Ce sont des gens, constate-t-il, qui d'emblée ont établi leur vérité et les contorsions auxquelles ils se livrent visent en fait à reconfirmer ce qu'ils croient déjà. Il n'y a pas de secret à découvrir. Son dernier essai, paru en français l'an dernier, intitulé « Numéro zéro », le montrait à partir de situations du XXe siècle.
Pour construire un complot, avant tout, on emploie seulement des événements réels. Le seul problème est de mettre en contact des choses qui n'ont pas de relations et qui sont là par chance. Alors je suis parti du fait que mon personnage, Bragadoccio, découvre, et c'est vrai, que Mussolini a un échappant de Milano pour essayer de rejoindre la Suisse et de passer par Como, où il y avait là sa famille qui essayait de le rejoindre, il n'a pas voulu rencontrer la famille. Nous ne savons pas pourquoi, on ne sait pas. Alors s'il n'a pas voulu être vu par la famille, il n'était pas lui. C'était son sosie. Et alors on commence à élaborer. Vous pouvez contrôler tous les faits historiques qui marchent également bien si on imagine que c'était un sosie. Et que c'était un sosie qui a été fusillé parce que tout le monde qui a capturé, fusillé, arrêté Mussolini ne l'avait jamais vu personnellement, sinon dans très loin, très loin dans un balcon. Ouais. Et là, on commence à voir Mussolini exilé en Argentine. Comme tout hiérarque nazi, si ça n'est pas invraisemblable, aidé par le Vatican, qui dirige tous les complots réels de la politique italienne de 50 ans de loin. Voilà. Il y a des auteurs qui, au cours de leur vie littéraire, ne font rien d'autre que raconter de personnages qui font l'amour. Et moi, je raconte des personnages qui font des complots. Peut-être ils racontent des personnages qui font l'amour dans leurs livres, mais dans la vie, ils font des complots. Moi, je raconte des complots dans mes livres, mais dans la vie, je fais l'amour.
Enfin, en réalité, une des grandes affaires d'Écho, c'est l'amour, mais avec les mots. Les Européens qui sont inquiets n'ont cessé de lui demander comment il pourrait se trouver un langage commun. Écho répondait qu'il ne fallait pas partir sur des bases trop illusoires. La sémiologie, toujours elle, enseigne que les signes, c'est fait aussi pour empêcher la communication et qu'il ne faut pas rêver d'une langue universelle. Ainsi, la lingua franca, faite d'un mélange grossier de toutes les langues du bassin méditerranéen au Moyen-Âge ou sous la Renaissance, le global English d'aujourd'hui, le globish, ça sert surtout à se mentir, comme le sabir de Molière.
Mr. Mufti, take 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 Mr. Mufti Quista, Anabatista, Anabatista,
Yok,
Zwinglista,
Yok,
Kofista,
Yok,
Usita, Morista, Frarista,
Yok, Yok, Yok,
Mistar Mufiti, Quistar Mufiti, Mistar Mufti, Tikristar Ti, Tikristar Ti, Donintendir, Tazir, Tazir, Donintendir, Tazir, Tazir, Tazir.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Mes recherches des dernières années m'ont suggéré de choisir comme sujet de mon cours la quête d'une langue parfaite dans l'histoire de la culture européenne. Coïncidence heureuse, parce que ce collège fondé par François Ier pour établir un foyer d'interprètes royaux qui opposait au latin des écoles la recherche des langues bien plus anciennes est devenu bientôt le collège de trois langues. D'abord, comme peregrinarum linguarum interpres, a été appelé Guillaume Postel, qui poursuivit tout au long de sa vie la quête d'un proto-langage, d'une lingua sancta divinitu inspirata primo homini, seul capable de rétablir la orbis terrae concordia. Dans le même temps où j'évoque ici le rêve d'une langue unique susceptible d'instaurer la fraternité entre les hommes, et tandis que le peuple d'Europe discute de leur possible union politique et commerciale, ce même peuple parle encore des langues différentes.
S'il y a une culture commune, alors comment expliquer le barrage linguistique? L'idée de surmonter le barrage linguistique est très très ancien, avant Babel. Mais c'est curieux qu'on n'a pas senti ce problème jusqu'au début du Moyen-Âge. Pourquoi? Mais il y avait un langage universel qui était le latin, qui ne posait pas de problème. Les Juifs étaient là par eux-mêmes, donc l'histoire de Babel n'était pas tellement importante pour la culture classique. C'est le moment où ils naissent les langues européennes. Carte à Capuana, Sermon de Strasbourg, tous les grands documents de naissance des langues européennes commencent à rendre vite donc la différence. La différence est l'impossibilité de se comprendre. Et alors, il commence le rêve de Babel de retrouver ou bien une langue mère, qui était la langue avant Babel, la langue d'Adam, ou une langue universelle. Disons que le problème a été l'histoire d'une faillite continuelle. Il n'y a pas de langue mère, et s'il y en avait, on ne peut pas la retrouver. Il n'y a pas de langue universelle qui puisse fonctionner, même si on invente ce qu'on appelait les langues internationales, dont l'espéranto, c'est l'exemple le plus intéressant. L'espéranto, c'est une langue très bien faite, avec laquelle on peut dire tout. Mais il s'avère que dans l'histoire de l'humanité, aucun pouvoir a pu imposer une langue.
Extrait d'un cours au Collège de France en 1992, Umberto Eco, qui avait un grand appartement à Milan, mais un autre plus petit à Saint-Sulpice, à Paris, disposa d'une chaire pendant l'année 1992 au prestigieux Collège de France. Est-il possible, s'y demandait-il, qu'il y ait un jour une langue européenne? Ben non. Mais Eco voit une amorce de réponse dans le programme Erasmus. L'amour avec les corps et l'amour avec les mots. Oui, les échanges sexuels et les unions durables qu'Erasmus facilite donnent naissance à tout plein de petits Européens, de plus en plus nombreux, à être élevés dans deux, voire trois langues. Chaque cellule familiale devient ainsi un petit laboratoire d'interprétariat. L'une des formules préférées d'Eco, c'était « la langue de l'Europe, mais c'est la traduction ». Sa passion pour la multiplicité des langues, des traductions, des interprétations, va le faire glisser de plus en plus des textes anciens aux formes les plus contemporaines de la culture de masse, de la bande dessinée à la série télévisée. Un humaniste aujourd'hui doit s'intéresser à Superman. Les œuvres, à l'époque de la culture industrielle de masse, constate-t-il, sont de plus en plus déterminées par les multiples exigences du public, à tel point qu'on peut parler d'une collaboration entre l'auteur, son lecteur, son auditeur, son spectateur, ce que l'entrée dans la civilisation numérique va accentuer encore. Mais est-ce que c'est si nouveau ? Un texte livré à la toile ne ressemble-t-il pas aux manuscrits du Moyen-Âge, livrés aux copistes et aux commentateurs qui pouvaient les colliger en recueil et les retourner à leur guise ? Car les techniques, note Eco, et ça c'est une remarque originale et de première importance, marchent peut-être rapidement, mais c'est souvent en écrevisse, c'est-à-dire qu'elles nous font reculer mine de rien vers des temps anciens.
Le téléphone portable, c'est un crime contre l'humanité, non.
Ah bon c'est pourquoi c'est un crime contre l'humanité, le téléphone portable?
C'est ce que tout le monde sait. On a perdu notre liberté personnelle parce qu'on est obligé à connaître toutes les histoires personnelles des autres. Mais c'est pas seulement ça. C'est qu'il n'est pas politiquement correct. On a fait la Révolution française. Lincoln a essayé de libérer les esclaves pour éliminer la notion d'esclavage. Au contraire, qui a un téléphone portable démontre d'être, sans le savoir, d'être un esclave. Parce que vous savez, monsieur Rockefeller, monsieur Agnelli n'ont pas de téléphone portable. Ils ont 25 secrétaires qui empêchent que le message leur arrive et qui le filtrent. Alors qui a un téléphone portable? Un esclave qui est obligé à répondre oui, toujours à son patron, à son boss, qui a une vie abominable, qui n'a pas une seule minute de privacy. Donc c'est un signe d'infériorité sociale pour avoir lequel les gens payent. C'est nouveau dans l'histoire de la discrimination humaine, hein, parce que les esclaves ne payaient pas pour devenir esclaves.
Ben non.
Ils payent pour avoir cette espèce de marque d'infériorité. Et je disais qu'il y a trois catégories de personnes qui ont le droit d'avoir le téléphone portable. Les journalistes, le médecin, et en particulier ceux qui font la greffe de foie ou de cœur, parce que comme il y a le cadavre, il faut les appeler pour...
Et puis le troisième?
Je disais le plombier. Oui. Parce que sinon, on ne trouve jamais un plombier. Il faut le trouver tandis qu'il fait quelque chose d'autre. Et les adultères, parce que c'était la façon d'avoir un rapport sans être contrôlé par le téléphone de la maison. Mais maintenant, dès qu'on sait que les adultères ont le téléphone portable, un mari ou une femme qui voit son partenaire avec un téléphone portable comprend immédiatement qu'il y a l'adultère en jeu. Donc, on ne peut pas.
Le téléphone portable, le permis de conduire, il pouvait faire rire l'assistance longuement sur le thème « Comment fait-on quand on le perd ?» et « Comment peut-on retrouver le permis de conduire, le fameux permis à points ?» L'aéroport, toujours le même, quel que soit le continent, l'hôtel international, idem, on ne compte pas les lieux communs et les non-lieux contemporains arpentés par le véloce Umberto Eco. C'était souvent l'objet de ses billets dans la presse. Dernièrement, il les publiait dans l'hebdomadaire L'Espresso. Il lui est arrivé de regretter d'avoir écrit certains livres de trop. Il lui en manque un, qui aurait été l'équivalent des mythologies de Roland Barthes, qu'il admirait beaucoup. On se souvient que le sémiologue français y observait sous toutes les coutures les objets cultes des années 1960, à commencer par la déesse. Mais voilà... Ce que lui-même Eco appelait les écrits occasionnels l'avait mené, comment disait-il, à la dispersion. Aussi, allons-nous saluer pour finir sa dernière tentative d'unité conceptuelle, de synthèse, une histoire en deux volumes de la laideur et de la beauté.
Il y a ce qui est laid pour nous n'était pas laid pour une autre civilisation. Je ne voudrais pas aller dîner un soir avec une femme de Rubens. Trop de cellulite, évidemment. C'est l'histoire de la femme de Rubens. J'avais mis ensemble dans l'histoire de la beauté une Vénus de Rubens et une de Cranach, qui est vraiment anorexique, totalement filiforme. Et l'autre épanouie et généreuse. Et tous les deux, c'était belle à leur époque, et ils nous paraissent, sinon laide, au moins non acceptable aujourd'hui. Qu'elle est belle, une femme de Picasso, en tant qu'œuvre d'art, tandis que si nous la rencontrions sur l'escalier, nous aurions un choc. Mais peu à peu, la laideur en soi est devenue une valeur positive, et l'art ne s'est plus préoccupé de produire de la beauté, même du point de vue artistique. Et pour nos jeunes gens, une jeune fille peut aimer George Clooney, mais en même temps peut Marilyn Manson. Voilà. Et on ne sait plus quel est le modèle positif. Le chanteur rock qui devient laid, selon les règles traditionnelles, n'a pas un but. Bon, simplement, il veut plaire à cause de sa laideur. Peut-être, pour beaucoup, c'est une forme de contrôle du terrible qui réellement vit autour de nous. Les massacres, les tortures, etc. Alors, pour supporter le terrible réel, on va s'amuser avec les terribles fictifs. Donc, peut-être dans notre temps, puisqu'il y a une production médiatique intensive de tout, il y a aussi une production intensive de l'horreur. Par exemple, l'intervalle des tierces était considéré laid pendant tout le Moyen-Âge. La Diabolus in Musica, qui est Do Fa Diesis, reste toujours dans saveur de soufre.
Très bien. C'est ce qu'on appelle un
unisson.
Bravo. Maintenant, vous allez passer de l'unisson à la quarte inférieure. Très bien. Maintenant, même chose avec la quinte. Voilà ! C'est tout ce qu'il y a ! Unisson, quarte, quinte, et c'est marre ! Tous les autres intervalles, c'est de la merde ! Le prochain que je chope en train de siffler un intervalle païen, je fais un rapport au pape !
Et il est toujours employé par le musicien pour exprimer des situations diaboliques.
Do Fa Diesis, comme disait si bien Umberto Eco, un exemple de triton, selon Black Sabbath. Allez, une dernière question pour la route. Sans doute poursuit-on toute sa vie sous des formes différentes la même idée. Ma difficulté, disait Eco, c'est que je n'ai pas encore découvert l'idée que je poursuivais. Peut-être qu'au moment de ma mort, cela deviendra-t-il plus clair. Nous avons composé cette émission préparée par Frédéric Martin, Martin Cellier, Clara Garzone, avec des archives de Radio Sorbonne, le Collège de France en 92, de France Culture, Jean-Louis Hésine, Francesca Piolo, Christophe Ono Di Bio, de France Inter, Rebecca Manzoni et, vous l'avez reconnu, d'Antenne 2, Bernard Pivot. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal avec Hélène Langlois à la technique. Et puis je signale qu'aujourd'hui paraît en Italie un recueil d'articles d'Umberto Eco et qu'au mois d'avril est attendu, beaucoup plus gros, des essais sur la pensée du Moyen-Âge chez son éditeur fidèle, Grasset.